Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 15 avril 2006, il pleut, c'est le week-end de Pâques et vous écoutez la radio, ça fait mal aux œufs, oui je sais, enfin bon. Comme tous les samedis, FMR ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, puis le cahier du sport et à partir de 15h du mix avec que dalle au menu, ben ça tombe bien puisqu'il y a trois petits pois au micro, mais moi je m'en fous, j'ai le menu de secours. Et je peux vous dire qu'il y a Zarma Faraï à partir de 15h jusqu'à 17h, vie d'ordure, c'est du punk, suivi ensuite de Tu peux l'ouvrir. Et à partir de 19h, Dada, c'est une expérience, on va dire... Non, bizarroïde, enfin bon, on verra. La CTRO Expérience, là, ça, oui, ça, c'est du bizarroïde, ça, c'est du grave, c'est du Fabrice, c'est ce que vous voulez, et c'est pire que Fabrice de la classe. 21h30, Quid Sky, et à partir de 23h, de la jungle avec Breakbeat Experience, mais cette fois-ci, on s'en fout, on est à une soirée qui n'est pas jungle,
non,
cette
toi,
fois-ci.
Toi, tu as une soirée, moi, je suis tranquille chez moi, moi.
Mais cela s'appelle une démission?
Oui, c'est une démission. Ah merde, il fallait pas le dire à la radio.
Non, mais non, c'est une émission!
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Tu crois qu'on se la pète un peu là, à force?
Bah, attends qu'on a un public, on peut, hein.
Ouais, non, on a rien à foutre. Enfin bon, ceci dit, on a deux invités qui doivent passer tout à l'heure et qui ne sont pas là. Mais bon, on peut vous dire, on les a sauvagement snobés, on les a pas annoncés la semaine dernière.
Oui, mais voilà. Il y avait des invités aussi prestigieux et puis bon, voilà, c'est jamais le coup de pas, on les a oubliés.
Voilà, Frédéric Boilet et Aurélia Horita qui étaient là la semaine dernière pour
l'exposition Nouvelle Manga.
Voilà, et puis... on a été très suivis sur le net. Ça me fait chaud au cœur et je suis pas le seul d'ailleurs, tant mieux. Et merci aussi à nos collègues d'ActuABD. La semaine prochaine, on en capture un et on le kidnappe d'ailleurs.
On le tend et on le force à rester jusqu'au bout.
Ouais, bon, en attendant, c'est un spécial Extrême Cinéma Freak Show.
That's right.
ça va, tout le monde est arrivé en plateau. Je tiens à signaler que comme la semaine dernière, il y a du people. Donc on vous explique, on a trois petits pois qui sont derrière, qui font un excellent gras cuisine sur les sorties culinaires sur Toulouse. Donc ça nous fait plaisir. Ça tombe bien puisqu'on va parler tout à l'heure de cannibalisme et qu'en plus ce soir est question d'ultra sushi, sexy sushi.
Sushi enfin.
Sexy sushi, oui, ultra sushi, c'est un autre fanzine toulousain et je me plante. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et en plus, eh ben d'ailleurs, on est désormais repris sur un site qui s'appelle pataphysique.net, qui regroupe pas mal de blogs toulousains de qualité et qui parle souvent de sorties. D'ailleurs, il est souvent question de recettes de cuisine ou de sorties resto. Donc, je peux vous dire, il y a du beau monde. Et du sport à retrouver, mon tire-bouchon. Ah, que ça tombe bien. Ah, ah, ah. Allez, on va parler de bande dessinée pour commencer, le temps que tout le monde s'installe, se calme et qu'on commence une réelle ambiance studieuse à l'antenne. On va parler de... on va parler de l'Empire jaune, l'Empire du milieu. Zhang Xiaoyu. J'ai répété Allez, toute courage. La matinée. Zhang Xiaoyu. L'envol, c'est chez Chiaopan Édition, dont on avait parlé du plus grand bien d'un très bon bouquin sorti.
Remember de Benjamin.
Ah ouais, il faisait.
La claque.
La claque. La claque à Angoulême. Et c'est loin d'être fini.
Ah, si je peux me permettre, si vous voulez écraser vos amis par une BD qu'ils en reviendront jamais, vous leur présentez Remember, et puis alors les réactions c'est ah, merde, oh ça donne envie de dessiner, oh l'enculé, c'est des trucs comme ça, tu vois qui.
Thomas, vu l'heure, calme-toi. Oh, s'il te plaît. Enfin oui, bon, c'est vrai que il est doué comme un as, comme un salopard ce mec. Et en plus, c'est un chinois, mais bon, que voulez-vous? Car le jour où la Chine s'éveillera, eh bien les traducteurs de manga vont devoir abandonner leur espèce de manga, cela pour gamin qui hier fustigé Frédéric Boilet. Oui, ils devront sortir enfin le haut du panier. Le recueil, l'envol, regroupe deux histoires vraiment poignantes et graphiquement de très bonne tenue. La première se déroule quelques années après la révolution culturelle, où par la terreur qu'il a imposée dans son pays, le camarade Mao a considéré suspect tous les intellectuels, comme par exemple les parents du petit Zheng Fei, qui ont le malheur d'être ingénieurs en aéronautique. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On les a traités de trahison et on les a pendus au écourt. L'enfant, pour se venger symboliquement auprès de ses camarades, fait le pari qu'il volera au-dessus de ses camarades de classe. Et ça tombe bien parce qu'il sait très bien faire les avions en papier. Et je vous laisse deviner la suite. Sinon, ce serait dévoilé. C'est quand même une histoire courte. La deuxième histoire, elle, est une adaptation d'une nouvelle de science-fiction d'Isaac Asimov, s'il vous plaît. Celle d'un enfant préhistorique ramené de... il y a 40 000 ans, à nos jours, à notre futur proche, pour les besoins d'une expérience, est confié aux soins d'une infirmière pédiatre. Oui, mais voilà, même préhumain, c'est un enfant déboussolé, de ne plus être dans son univers, un univers normal pour un enfant, celui de galoper après un facochère, de manger la chair nue, etc. Non, il est dans une espèce d'univers de béton, de plastique, de métal, de lumière et de son qu'il ne comprend absolument pas. Et finalement, l'objet de l'expérience va devenir l'objet de tous les soins pour une infirmière. Deux histoires sur le décalage entre le monde des enfants et des adultes, celui de la normalité et de la différence, une qui se passe il y a 40 ans, l'autre qui sait dans 40 ans. En tout cas, le niveau des histoires est une preuve qu'il y a vraiment un péril jeune dans le monde de la bande dessinée, et ça tombe très bien qu'il soit capable de faire des albums de cette qualité. Zhang Xiaoyu, L'envol, c'est chez Chiaopan Edition. Laurent Astier, Poison, le premier tome vient de sortir, il s'appelle Immersion chez Dargaud, c'est un double album absolument superbe. L'histoire commence d'une manière plutôt brutale. En 1999, c'est la guerre du Kosovo et Zoran voit sous ses sœurs sa sœur kidnappée, ses parents assassinés et revendue dans les réseaux de prostitution. 8 ans après, il fait partie de la police française et il participe à un plan particulièrement audacieux visant à infiltrer la mafia d'Europe de l'Est, actuellement la plus active sur le trottoir, mais aussi la plus violente. Cela fait longtemps que les filles de joie n'en ont plus. Elles sont loin d'avoir choisi un tel métier et sont exploitées dans des conditions absolument humiliantes par des gangs particulièrement brutaux. Lassé d'attendre passivement à la brigade des mœurs de Lyon de ramasser des femmes victimes de la prostitution, le commissaire divisionnaire Marshall a enfin l'occasion qu'il attendait. Une vraie police européenne est créée pour mettre fin à ce fléau. Il est donc chargé de monter une véritable équipe d'infiltration pour remonter toute la filière avec la collaboration des autres polices européennes. Et pour cela, il a besoin d'une jeune femme, plutôt mignonne, qu'il va mettre sur le trottoir. Claire Guillot, fliquette encore en formation à l'école, est promise à un bel avenir. Ses résultats sont assez exceptionnels et on pense qu'elle va sortir un jour de sa promo. Mais ça, c'était avant que Marshall vienne la recruter. Les couleurs crues, la violence du propos, les images souvent explicites, c'est une bande dessinée qui n'hésite pas, et en commençant directement par la déchéance des personnages, la chute de Clara. C'est l'album le plus noir du trimestre et c'est celui qui m'a vraiment fait mal au bide en le lisant. Laurent Astier, Poison, le premier tome s'appelle Immersion, c'est chez Dargaud. En plus, c'est un tome double, et donc il installe vraiment bien l'intrigue et ouf, il fait mal au cœur, mal au burn. Je rappelle que vous pouvez avoir accès aux chroniques que je vous ai lues à l'antenne, évidemment sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Vous pouvez aussi rajouter votre grain de sel, dire oui, non, je suis pas d'accord avec toi, ou ouais, c'est vrai, finalement, il est pas mal. Et n'hésitez pas aussi à donner vos petits coups de cœur dessus dans les commentaires. Supplément week-end, et midi, 13 minutes, 52 secondes et 976 millièmes sur l'horloge atomique de la radio. Et donc, comme vous le savez, nous recevons le professeur Thibault. Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour. Nous recevons aussi Franck Lubé. Bonjour.
Bonjour.
Je crois que ils n'ont pas eu leur pâté l'année dernière, excusez-moi, quand on les a reçus pour Extrême Cinéma. Qu'est-ce que t'en penses?
Vous allez vous faire l'apéro l'année dernière ou non?
Je sais pas, je me rappelle pas en fait.
Non, je crois pas.
Ah ben ça les a marqués, tiens.
Non, mais c'est agréable.
Du sport, lui, il est en train de lire autre chose. On s'en fiche, on fait l'introduction et on va commencer par. Mais qui est le professeur Thibault?
Attends, on n'a pas dit pourquoi ils étaient là quand même.
Bah si, j'ai dit que c'était pour Extrême Cinéma, la cinémathèque, et a pour thème les
Freaks. Et ils font quoi dans Extrême Cinéma?
Mais justement, j'y viens, bordel, c'est mon papier. Mais qui est le professeur Thibault, le seul fan Die Hard à se connu à ce jour de Jesus Franco? Mais qui est Jesus Franco, un réalisateur espagnol à l'esprit
non.
perturbé de...
Non, Xavier, tu l'as déjà fait l'année dernière, là, s'il te plaît. Ouais. On fait une intro, là.
D'accord, ok. Bon, alors c'était donc le texte de l'an dernier, et l'an dernier le thème était, je vais dire, sur les bestiaires. Non, je dis une bêtise, j'improvise comme d'hab. Et cette année, le festival en est à sa 8e édition d'Extrême Cinéma. Le temps, il est passé loin hein, quand même depuis les faubourgs du cinéma et tout ça, où on se retrouvait le samedi soir à la Cinémathèque en se disant « Super, on va pourrir une superbe salle de 230 places équipée en son Dolby Surround avec des films particulièrement pourris et nazes. » Ah, comme toujours, ballotté dans la programmation, gré des cycles concernant le cinéma avec un grand dollar. Et c'est vrai que Pedro Almodovar, il commence à nous les brouter grave. Pas fichu de louper un seul film. Non, pas un seul porno lamentable, pas un truc horrible, pas un western fauché, pas un film de ninja, non. Que du brillant. Il est chiant, quoi, franchement. Oh. Quoi. Heureusement donc, la Cinémathèque habite des... abrite des espèces de Quasimodo qui hantent ses collections du côté de Palma. Et parfois, il y en a un tout excité qui hurle « Freaks ! Freaks ! Freaks !» Tout ça parce qu'il a déniché une bobine d'un bis italien, manque plus qu'à trouver les trois autres, ou une Yeti femelle des Alpilles attaque les cartes touristiques à grands coups de rocher en carton pâte. Ça tombe bien, les Freaks, c'est le thème cette année. Et croyez-moi, ils ont une programmation monstrueuse.
Ouais, bon alors, tant qu'on en parle du Freak Show, là je suis tombé, en essayant de faire des recherches à préparer l'interview, je suis tombé sur une programmation de 2001. Le thème c'était Freaks, la monstrueuse parade. Donc on se répète là, ça va pas ça.
Bah non, c'est pas tellement qu'on se répète en fait, mais vu qu'on a décidé depuis avant en fait, on prenait une seule théma, on déclinait une seule théma sur 10 jours et depuis quelque temps en fait, depuis 2 ans, on a décidé de fractionner en fait en une espèce de micro thématique si on peut dire. Donc en fait, ça nous permet nous d'avoir plus de liberté au niveau programmation plutôt que d'être super serré en fait sur un seul thème et en fait, bah à chaque fois, il faut trouver un thème un petit peu fédérateur quoi.
D'accord.
Donc en fait Freak Show c'est plus dans l'idée de fête foraine hein. Le but un peu c'est ça quoi. On a toujours considéré qu'Extreme Cinéma c'était ça, c'était un peu une fête foraine où tu peux avoir des attractions où tu vas vivre des choses très très intenses et à côté t'as des trucs complètement minables. Donc c'est un peu ça.
D'accord. Ouais, parce qu'on s'aperçoit vite qu'il y a il y a beaucoup de thèmes assez différents. On a le cannibalisme, on a le drogue et cinéma, on a nos futurs C'est pas mal de thèmes. On a vu aussi que dans la programmation, il y a pas mal de réalisateurs japonais. Puisqu'en fait, le Freak Show, c'est quand même le thème principal de la filmo de Cronenberg, de la Beat Generation, on peut dire. Vous pouvez nous parler un peu de ces films asiatiques en force qui sont cette
Attends, il y a du japonais.
Ouais.
Il y a du japonais. Mais on m'a pas prévenu, mais mince, j'aurais pu passer du Denki Groove, quoi.
Non. Attends, il est un peu en retard.
D'accord.
D'accord, ok, on zappe.
Ben, il y a pas tellement de films japonais que ça, en fait.
Oh, il y a du Mickey, il y a du
Il y a Konishikawa.
Voilà, je crois qu'on a 3-4 films japonais, mais c'est sur 25 films en fait.
Y a Midori.
Ouais, tout à fait, mais ça fait 3-4 films japonais en fait sur 25 films, je crois, présentés.
D'accord.
Et finalement, ce qui est assez peu.
On a toujours eu du cinéma japonais, mais on a toujours cherché à faire une programmation plutôt internationale. Il y a toujours différentes nationalités, autant de l'italien, du français, de l'américain, du japonais, et même de l'argentin cette année. C'est quand même plutôt internationaliste.
Après, c'est ça qui est étonnant, c'est que l'an dernier on parlait avec un apprenti japonais comme quoi parler du quotidien c'était international, mais finalement la dobe aussi c'est international.
Je pense que la dobe est internationale, ouais, totalement, ouais, sans aucun problème. Ceci dit, après, le pour parler des films asiatiques, en fait, c'est ce qui nous est le plus demandé. En général, quand on discute un petit peu avec les spectateurs, les premières réactions sont plus de films asiatiques, ce à quoi nous on se refuse un peu, puisque déjà il y a d'autres festivals qui
lâchez-nous avec ça.
Oui, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Moi j'en ai un peu marre qu'on me demande des films de torture, des films de torture japonais. Moi je les apprécie pas déjà spécialement beaucoup. Donc déjà je vois pas pourquoi je les programmerais du moment que je les aime pas trop. Après c'est plus intéressant d'aller taper dans tous les coins plutôt que d'être super restrictif et finalement de correspondre un petit peu à un effet mode de ce qui arrive actuellement quoi. Il y a une grosse vague de films asiatiques. Bon mais voilà, mais t'as mieux. Mais nous après on n'est pas trop concernés par ça.
D'accord, ça quand même pour contenter ces fans dont tu parlais, il y a quand même du Mickey que vous nous servez chaque année. Alors après la comédie musicale volcanique de l'année dernière, qu'est-ce qu'on a cette année? Itchy the Killer, c'est quoi?
Itchy the Killer en fait c'est.
C'est pas ce que c'est.
Je sais pas trop ce que c'est en fait, Itchy the Killer. Je sais, c'est un film de super-héros, ça c'est sûr. Mais c'est un film de super-héros vu par le prisme un petit peu Mickey et ça part un petit peu dans tous les coins. C'est un objet. Je ne sais pas si c'est un bon film, très franchement. C'est un film qui me cause beaucoup de problèmes. En tout cas, qui a le mérite d'être hyper intéressant, surtout complètement barré et complètement suicidaire parce que je pense que c'est un film. Alors c'est très curieux, je ne sais pas s'il a été bâti pour tourner en festival. Je pense que le film connaîtra une sortie DVD. Je vois mal un distributeur en fait distribuer ce film dans un circuit commercial, même si ça ne concerne que l'art et essai quoi. C'est un objet, c'est un objet autre.
D'accord. On peut voir aussi parmi les thèmes principaux un thème qui s'appelle la galerie des glaces comme il est décrit dans le programme, c'est sur un miroir déformant de nous-mêmes. Donc la télé-réalité là est un peu en perte de vitesse. Enfin, il y en a une nouvelle émission qui a été lancée hier soir. J'étais consterné. Elle nous crée un peu des monstres jetables en quelque sorte. Les Loana et consorts. Vous comblez un vide là ou qu'est-ce que vous essayez de faire?
Non, c'est pas tellement pour ça. C'est la galerie des glaces en fait. Moi personnellement, j'ai toujours adoré les frics, si je peux m'exprimer comme ça quoi. Donc c'est vrai, c'est récurrent. C'est récurrent dans les thèmes en fait d'extrême cinéma. Il y a toujours des films avec des gens difformes. Ça doit être inconscient certainement là aussi chez nous. Non, c'est intéressant en fait de voir comme une sorte de négatif en fait de ce qu'on peut être quoi. Galerie des Glaces, c'est intéressant. C'est les frics au cinéma ont ce côté extrêmement dérangeant quoi par rapport à l'humanité. Et c'est un petit peu se regarder dans une glace déformante quoi. Donc ça crée toujours un petit décalage, un petit quelque chose qui fait pas spécialement plaisir quoi. Mais et qui est pas spécialement rigolo d'ailleurs hein. Il y a le film d'Alessandro Jodorowsky notamment Santa Sangre qui est programmé dans cette petite théma qui est un film où on s'amuse beaucoup mais où il y a des choses qui vous touchent on va dire en profondeur quoi.
Ah oui, le tarot philosophique hein.
C'est pas par exemple mais voilà, c'est pas spécialement rigolo quoi.
D'accord.
Oui, puis ça pose aussi, c'est une manière de poser la question, la représentation du corps, puisque souvent enfin le au cinéma le corps est à une place très importante. Et, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours ce côté maintenant un peu Barbie et compagnie. Chirurgie esthétique et compagnie et là mettons on a aussi un film avec Orlan qui fait tout un travail sur le corps sur un travail de chirurgie esthétique mais qui est plutôt pour je sais pas si c'est l'enlaidir ou en tout cas ou chercher une beauté différente des canons de beauté habituels. Donc c'est aussi poser cette question un peu, la représentation du corps, qu'est-ce que le corps et comment le cinéma se l'approprie, qu'est-ce qu'il en fait et finalement quelle image il peut nous renvoyer au final de nous-mêmes.
D'accord. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle les thématiques qu'on a fait il y a un an. D'un réalisateur un peu barré là-dessus. Il parlait de télévision déjà à l'époque, comme quoi.
Non, excuse-moi.
J'adore déconcentrer mon partenaire.
Si on poursuivait dans les autres thèmas, on a la théma nos futurs. Alors là, avec Xavier, on a été un peu circonspect, si est-ce qu'on veut dire, parce que dans les frics, on voit pas trop le rapport. Alors peut-être que 1984, c'est pour surfer sur la sortie de V for Vendetta, mais est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu plus hein?
c'est assez explicite. Non, enfin, je pense que là, il n'y a pas de nos futurs, voilà des films, il y a 4-5 films, c'est une certaine représentation en fait de ce que pourrait être le futur, voilà. On est entre la vision minable de 2019 après la chute de New York, qui est un bon bis italien, un des derniers à être sorti en salle de par chez nous.
Chroniqué chez Nanarland d'ailleurs, j'ai vérifié.
Ouais. ils sont très méchants d'ailleurs avec ce film.
Ils sont sans pitié.
Ouais, ils sont sans pitié. Moi, j'ai vraiment de la tendresse pour ce film. Enfin, surtout pour l'époque aussi qu'il représente. Et après 1984, parce que je pense que c'est un film qui est absolument remarquable, que c'est assez universel, que je n'attends pas avec impatience V pour Vendetta par exemple. C'est aussi un petit peu
je te rassure, l'invité de la semaine prochaine non plus ne l'attend pas avec impatience, et c'est une pointure hein, pour du Alain Moore, on promet du lourd.
On a repéré aussi, il y avait d'autres films spéciaux, enfin des projections spéciales qui étaient organisées, comme House of the Thousand Corpses et Midnight Movies de la masse au grand public. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça, puisque le premier c'est de Rob Zombie, il me semble.
Oui, pour House of the Thousand Corpses, oui, c'est le film c'est le premier film de Rob Zombie.
Excuse-moi.
Justement, je voulais poser la question. Vous n'avez pas pu avoir les deux en même temps, c'est-à-dire le premier là, celui-là que vous présentez, le suivant.
Devil's Reject, qui est une espèce de fausse suite. En fait, c'est simple. Le film de Rob Zombie, le premier donc, House of the Thousand Corpses, était prévu pour une distribution en salle. Il y a eu a priori beaucoup de problèmes, donc le film ne sortira jamais. Toujours est-il qu'on a trouvé une copie donc sous-titrée français et que pour le Devil's Reject, les droits ont été achetés, mais pour l'instant il n'y a aucune copie. Voilà, c'est simple, il n'y a aucune copie.
Ouais, parce
voilà,
que de toute façon, le House of the Thousand Corpses, il est déjà relativement ancien, quoi. Je veux dire, il y a 3-4
ans.
Oui,
c'est un film qui a 4 ans. C'est un film qui a eu là aussi beaucoup de problèmes. Qui a eu énormément de problèmes aux États-Unis suite il y a eu plusieurs montages en fait sur le film. Alors en fait pour tout vous dire, je ne sais pas trop quelle copie on va avoir parce qu'il existe plusieurs versions du film et donc c'est très difficile de savoir quelle version on va avoir quoi.
Et il y a une bande originale musicale du film qui est absolument impeccable hein, avec une version de Brick House, le tube des Commodores où il y a carrément Lionel Richie qui joue le morceau avec Rob Zombie.
Ah ouais.
Rien que pour ça vaut le coup hein. Vraiment rien que pour ça, je pense que c'est la musique de fin du générique de fin à mon avis hein, parce que ça le fait tout à fait quoi.
Ouais. Mais c'est un film qui est complètement barré et puis moi personnellement je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui paye son tribut à tout un cinéma qui a totalement disparu.
Absolument,
Donc tous ces films de d'horreur très durs des 70s comme Massacre à la tronçonneuse, puisque là on est quand même dans le moule Massacre à la tronçonneuse. Après comment dire, il le digère à sa façon puisque c'est digéré un petit peu au MTV style quoi. Donc c'est un film qui est assez ironique, qui est assez cynique.
Il a commencé comme décorateur à MTV d'ailleurs.
Mais non, Rob Zombie c'est un rocker fameux, déconne pas.
Oui, mais je crois qu'il a été White décorateur Zombie à une époque.
Ah bon,
ça, pour MTV,
c'est possible.
Voilà. Je crois même qu'il a fait le plateau de Yo MTV Raps.
Non, mais de toute façon, c'est au niveau de sa carrière, elle est d'abord musicale. Hein, Rob Zombie, c'est White Zombie, pas mal de succès. C'est lui qui tourne ses clips, donc il a déjà avant de tourner grand écran, il a déjà
il a de la matière.
Il a été récompensé pour un de ses clips hein, par MTV, il a un grand prix et tout, tranquille. C'est lui qui faisait toutes les pochettes des disques et tout. Avec sa femme qui est la bassiste à un moment du groupe, donc le
et
mec
qui est actrice aussi maintenant.
Ouais. Et le mec, bon ça va, il a du background sans problème. Hein, de toute façon, c'est pas un petit jeune qui débarque du monde du clip quoi. C'est
ouais, tout
voir,
à fait.
Quoi.
Ceci dit, même après dans les textes de ses chansons, il y avait énormément de références chaque fois à tout cet univers du cinéma d'exploitation, du cinéma d'horreur. Donc voilà. Donc on est très content de le présenter.
D'accord. Xavier, tu avais quelque chose à dire?
Ouais, je sais pas pourquoi là, c'est quoi déjà le numéro de la station? C'est pas le
05 61 580 580?
Ouais, tu es sûr?
Oui.
Ouais, ils ont bien noté le numéro?
05 61 580 580.
Bon alors dans ce cas là, il y a la régie pub qui me dit, on fait gagner une place pour la première pub, hein. Non, pour la deuxième, c'est plus vicieux.
Allez, au revoir!
Le 14, 15 et 16 avril, Marmande accueillera ce qu'il faut bien qualifier maintenant de plus gros festival du Sud-Ouest, le Garo Rock. Une soixantaine de groupes sur 3 jours. Du rock des Wampas à la chanson de Loïc Lantoine. Des vieux Buzzcocks ou Exploited au récent Hyton ou Interlope. Du bootlegger Zebra au déconneur de la MJC clandestine en passant par les très sérieuses Tête Red. Le programme est copieux. 3 jours de festivités à quelques kilomètres de Bordeaux. 14, 15, 16 avril, Garo Rock Festival de Marmande.
Une place à gagner, une!
Sexy Sushi. C'est sexy, ouais. C'est comme un poisson dans l'assiette de Monsieur Mitsubishi. C'est cru. Ça tape, ça cogne. Ça hurle à la nuit tombée sur les collines qui entournantes. Sexy Sushi. Les sexy sushis traversent la Loire. Kaniko Sushi, Taco, Torigai, Uni. Fraîcheur garantie. Sexy Sushi chez Pierre le samedi 15 avril. C'est Lassie qui assurera une très fidèle première partie. C'est un concert éphémère. Sexy Sushi.
Faire ce que tu veux, c'est bien gérer sa vie. L'important c'est d'être heureux pour les salopes y compris.
Éphémère.
supplément week-end sur Radio FMR, spécial extrême cinéma et autour des freaks. Et le freaks, c'est chic.
Le freaks, c'est chic et surtout mystérieux. Quand on parle de ça, il y avait un film qui nous avait interloqué avec Xavier l'année dernière, c'était le film mystère. Alors, avant de parler de celui de cette année, on va essayer de vous arracher des infos. Quel était ce film, putain de film mystère l'année dernière?
C'était « Et il voulut être une femme » de Michel Ricault, qui était un faux documentaire en fait sur le transsexualisme.
D'accord, est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé?
Pardon? Oui, il y a quand même quelqu'un qui a trouvé. Voilà. À qui d'ailleurs on a voulu offrir plein de places parce que c'était extrêmement difficile et qui a pas voulu, qui a pris sa place. En plus, il avait déjà vu le film, donc c'était un peu dommage.
Ah oui, donc c'est pas uniquement un miracle de l'internet, c'était un vrai fan quoi.
Ah oui, non, c'était un vrai fan, très très impressionné. Là, j'ai été vraiment très très impressionné.
C'est l'honneur. Ça s'applaudit.
C'était pas facile. Hein.
Accessoirement. Quel va être donc le film mystère de cette année?
Alors, un indice peut-être
Non,
d'abord, dire ce qu'il y a à gagner quand même.
Il y a toujours une place à gagner pour la personne qui trouve. Ouais. Voilà, donc ce sera une petite affichette en fait qui va se dévoiler petit à petit à la cinémathèque. Ouais. Voilà, et peut-être avec quelques petits indices. Bon, en fait, celui de cette année est particulièrement difficile aussi. Donc peut-être qu'il y aura un fan, mais là quand même je doute parce que là c'est vraiment très 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 dur.
Ah, je me disais il y a peut-être un fan, mais c'est très dur parce qu'il est impossible d'être un fan de ce film, donc quand même.
Non, on peut être fan de ce film, il y a pas de souci.
Ouais,
non,
ou
encore du genre. Ou en tout cas voilà du genre.
En tout cas du genre.
D'accord, c'est un film français.
Alors en fait il y a une petite faute dans le programme, ce n'est pas un film français.
Ah. Alors déjà, si vous avez
un indice,
ne vous fiez pas au programme. Oui,
Donc c'est un film italien.
D'accord.
Voilà. Qui date de, ça je peux le dire sans problème, qui date de 1973.
Ah mince, il y a quand même un gros paquet là. Bon, bah allez, ça va être dur, je sens. Hein. Vous pouvez ressortir donc les intégrales du cinéma italien, vous réabonner aux chaînes de Berlusconi. Et vite, il y a une promo en ce moment, ouais.
Ouais, surtout contactez Christophe Gans et puis il pourra peut-être vous aiguiller.
Ah, Christophe Gans, il vient dans 2 semaines, pas si vite. Hein,
hein. Si on parlait du film de clôture qui est Nothing, connaissait Vincenzo Natali pour Cube surtout, puis il a fait Cypher. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film parce qu'à Rinko Pitch, ça a l'air assez rigolo. Deux héros accrois à la console et à la bière, d'après ce que j'ai compris, au beau milieu du néant. Sa galerie déglace des amateurs de films déviants, c'est un autoportrait. Une question du petit Xavier qui demande est-ce qu'il fallait pas mieux passer Beavis et Butthead.
Non, je pense qu'il valait mieux passer Nothing. mais il y a de ça, il pourrait y avoir, oui, il y a un petit peu de Beavis et Butthead dans nos films de Vincenzo Natali. C'est un film suicidaire, encore une fois, enfin je pense, pour Vincenzo Natali. Si on était un petit peu pédant, on peut dire que c'est un film concept, mais qui s'en échappe finalement très vite, puisque c'est deux cadres un petit peu en crise, un petit peu asociaux qui un jour vont sortir de chez eux puisqu'ils habitent une magnifique maison en bordure d'une bretelle d'autoroute. Leur vie est très compliquée. Un jour ils vont sortir de chez eux, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est le blanc, c'est le vide, c'est le néant. Voilà, et le néant c'est une espèce de matière blanche comme ça sur laquelle ils peuvent rebondir. Ça fait ch'tong, 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 ch'tong. Et en fait ils vont se découvrir un petit peu un pouvoir particulier, puisque bien sûr il y a des questions essentielles qui se posent comme la faim, la soif, parce qu'il ne reste vraiment plus rien, sauf ce qu'ils ont bien sûr comme objet, voilà, à l'intérieur de la maison.
Équipement, frigo, canette de Bud.
Et en fait ils vont explorer le néant. Donc voilà, ils vont partir en expédition et puis surtout ils vont se découvrir un pouvoir assez particulier, c'est-à-dire ils vont pouvoir faire disparaître des choses mais ne pas les faire réapparaître. C'est-à-dire ils vont pouvoir faire disparaître la faim, la soif, divers objets, mais ils ne peuvent pas les faire réapparaître. Voilà. Et donc à partir de là, on a une espèce de fable existentialiste complètement barrée, qui est à mourir de rire parce que qui est toujours en décalage. Moi je sais qu'il y a une ligne de dialogue dans le film qui est absolument fabuleuse et qui donne un petit peu le ton du film. C'est quand ces deux personnages sont dans le néant et qu'il ne reste plus que leur maison et le rien autour, donc ils se posent des questions: est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont en enfer, est-ce qu'ils sont en paradis, qu'est-ce qui se passe? Et donc, un des deux personnages dit, est-ce qu'on est mort? Et l'autre lui répond, c'est impossible, on a toujours le câble. Voilà. Et tout le film.
Il y a du sport qui est en train d'y songer sérieusement, là.
Et tout le film est régi un petit peu par cette espèce d'humour un petit peu absurde. Mais à la fois, c'est, ça reste quand même une fable existentialiste, mais qui se décale, qui se prend pas au sérieux, qui est un petit peu à côté, qui veut dire plein de choses. Et puis surtout, moi personnellement, même si on rit, c'est totalement angoissant, en fait. D'accord. Autant Cube était un film sur l'enfermement. On était vraiment enfermé quelque part, alors que là finalement on est à l'air libre et que c'est peut-être encore plus angoissant.
D'accord. Et quand on vous entend parler de ces films, vous devez vraiment vous éclater à faire la sélection quand même.
Pas
vraiment.
C'est pas vraiment en fait. C'est parce que c'est difficile en fait de localiser les films. C'est extrêmement difficile. Ça peut paraître simple.
C'est-à-dire quand tu parles de localiser, tu parles d'essayer de retrouver où c'est qu'il y a ces bobines, c'est ça?
Trouver les copies.
Tout à fait. Tout à fait.
Après c'est pas tout. De
Extreme Cinema fonctionne en fait sur deux plans. Il y a des films donc qui sont issus des collections de la Cinémathèque de Toulouse. On est dans une cinémathèque, donc c'est normal qu'on aille piocher dans nos collections. Et ensuite donc il y a toute une partie de films qui viennent de l'extérieur, donc, et qui sont à localiser, et bien sûr à négocier, etc., etc. Voilà, donc là on aboutit à des choses assez dantesques, quoi. On a eu travaillé sur des films pendant 2-3 ans pour arriver à les montrer, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la confusion qui existe à l'heure actuelle. C'est pas parce qu'on peut télécharger quelque chose sur le net ou l'acheter en DVD que c'est facile de le projeter en salle. C'est deux niveaux totalement différents.
Donc en fait, le choix des films, ça peut partir d'une envie vraiment d'avoir un film et vous pouvez passer plusieurs années pour le chercher, ou alors vous pouvez tomber sur un film dans les archives de la Cinémathèque et puis se dire tiens, c'est vrai que ça pourrait bien aller dans la programmation de cette année. En fait.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est des réajustements. En fait, avec Sam Cinéma, il faut bien se dire que les programmations de départ en général changent à l'arrivée à peu près à 70%. Ouais. On part d'une idée en général et on arrive à quelque chose qui est pas du tout ce qu'on avait prévu au départ. Donc
et puis après aussi, on peut avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire pas partir d'une idée de programmation et chercher les films, mais mettons par rapport au fond de la cinémathèque, de farfouiller et de trouver des films et de se dire tiens, ces films il faut les montrer, on les a pas vus, ce sont des choses qui sont pas connues, c'est vraiment des curiosités, et du coup d'essayer de bâtir à partir de ces films, de bâtir en fait une micro thématique pour pouvoir les montrer et montrer des choses rares qui sortiraient pas après forcément dans un autre cadre.
Franck et Fred, je voudrais savoir, votre travail donc, c'est à la Cinémathèque, c'est un travail de conservateur entre guillemets, si je puis dire. Combien il y a de films dans le fond de la Cinémathèque de Toulouse? C'est réputé comme étant la deuxième plus grande cinémathèque de France. Combien il y a de films?
En termes de chiffres, je crois que ça se situe, je crois qu'il y a 31 000 ou 32 000 titres. Donc tout confondu, hein, bien sûr, hein, court-métrage, long-métrage.
Et combien est-ce qu'il reste encore à identifier?
Ah non, tout est identifié. C'est au niveau
parce que je me souviens qu'à une époque, c'était à savoir, mais à quoi ça correspond?
Oui,
c'est ça qui avait lancé un peu le
pense que c'est le tout le truc des archives. Je pense que toute archive de film, plus ou moins importante, a connu ce type de problème, qui a tendance maintenant à se raréfier, puisque ça, je pense que quasiment toutes les archives ont identifié leur collection. Enfin, en tout cas, connaissent les titres qu'ils ont.
Ce qui n'empêche pas qu'après, même si on connaît les titres, il y a toujours des choses à redécouvrir, à redécouvrir dans le sens où même si on connaît le titre, le film est à revoir. Parce que même si à une époque il a eu ou une bonne critique ou une mauvaise critique, selon ou qu'il soit rentré au Panthéon du cinéma ou qu'il ait été complètement oublié, c'est des films qui sont toujours à redécouvrir dans le sens de comment ils ont vieilli, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui par rapport à l'époque ou par rapport à notre propre époque. Donc les films sont toujours à revoir, même s'ils sont identifiés, on va dire, en termes documentalistes.
Depuis toutes ces années de Festival Extrême Cinéma, est-ce qu'il peut vous arriver de remontrer des films que vous aviez déjà diffusés pour cette programmation?
Ah oui, bien sûr, oui. Cette année, oui, on remontre beaucoup de choses, en fait. Il y a des choses qu'on avait déjà montrées. Moi, je pars du principe qu'en fait, Il y a beaucoup de festivals qui cherchent le... Disons qu'on va pas se positionner en fait comme quelque chose d'incontournable, de gigantesque, etc. C'est pas le but du jeu. Enfin, pour nous, c'est pas le but du jeu. Non. Donc moi, je galope pas après l'inédit ou ce qu'il faut montrer à tout prix. Moi, je sais que j'ai eu discuté avec certaines personnes qui, par exemple, qui nous reprochaient de programmer les films de Takashi Miike.
On y revient toujours, tu vois.
Non, mais c'est assez révélateur, quoi.
C'est pas ça qu'on vous reproche, hein, c'est vis-à-vis de nos concurrents avant, mais bon.
Je comprends à la fois la réaction, les gens pensent automatiquement, oui, voilà, comme ça, là, vous aurez du monde, puis voilà, vous êtes bien dans l'air du temps, parce que c'est un petit peu une hype, etc. Et en fait, je suis désolé, en fait, moi, c'est des films que j'aime bien, donc... comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je extrême cinéma, s'il y avait une éthique extrême cinéma, c'est-à-dire qu'on passe pas de films qu'on juge pas intéressants. Ça veut pas dire qu'on aime totalement les films.
Ça veut pas dire que le film est forcément bon.
Ça veut pas dire que le film est forcément bon, mais c'est juste des films qu'on trouve intéressants. Je pense que remontrer aussi c'est toujours intéressant. Je sais que c'est assez marrant et ça montre bien un petit peu le comment marche un petit peu le public. C'est-à-dire que par exemple là cette année il y a deux films de Frankenheim l'auteur qui sont Basket Case et Elmer le remue-ménage. Et j'en ai discuté hier soir, on m'a dit mais pourquoi vous ne faites pas venir Frankenheim l'auteur? On a fait venir Frankenheim l'auteur.
Oui. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qui sont les invités cette année, parce que c'est vrai que vous avez réussi à en avoir.
Il n'y a pas d'invités. Cette année, en fait, on a longuement travaillé, en fait, sur une totale, Alessandro Jodorowsky.
Putain, non, si tu le fais venir, là, je serais plus jamais venu à la Cinémathèque.
Ah ouais.
Mais j'allais poser la question, parce qu'il y a, y a Santa Sangre, mais bon, El Topo, ça fait, je l'ai pas vu depuis qu'il a été diffusé, je l'ai pas revu.
Quoi. Ouais, tout à fait. Donc
la montagne sacrée.
La montagne sacrée, oui.
Vous l'aviez diffusé, me semble-t-il.
Pas la montagne sacrée, en fait. On avait diffusé, on a passé El Topo, dans une copie qui était pas très bonne, mais ça fait déjà quand même pas mal d'années. Mais je crois même pas que c'était pour Extreme Cinéma. Je pense que c'était l'époque Faubourg du cinéma. Donc on a longuement travaillé sur cette rétrospective. On voulait faire une totale. Tous les contacts étaient pris. Ça a été un petit peu compliqué pour localiser les films de Jodorowsky qui sont très 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 difficiles à dégager pour des questions de droit. Enfin, c'est un capharnaüm.
Je croyais qu'il avait tout regroupé auprès du même producteur qu'il avait avec Moebius.
C'est plus compliqué que ça, puisque les droits d'El Topo en fait sont dans une maison de disques en fait aux États-Unis. C'est très curieux. Ça fait partie.
Venant du personnage, ça m'étonne pas. Hein. Je rappelle que Jodorowsky est scénariste de BD assez controversé. Il a scénarisé L'Incal, mais surtout c'est quelqu'un d'assez allumé. Hein.
Oui, qui est complètement allumé. Et en fait, donc voilà, ça a été déjà très compliqué au niveau des films. Et donc ça n'a pas pu se faire donc pour diverses raisons. Donc voilà, et après le fait qu'il n'y ait pas d'invité, ça aussi justement, ça dépend de on en avait longuement discuté avec Franck, mais après j'estime que quand on invite quelqu'un, enfin les gens ne sont pas des serviettes jetables, c'est-à-dire que Jodorowsky n'a pas pu venir,
on fait pas et puis on va pas chercher une roue de secours pour
tant
chercher
pis,
une roue de secours,
on peut pas aller chercher, on n'est pas allé chercher une roue de secours comme ça, quelqu'un qu'on appelle un petit peu en catastrophe
pour avoir un invité. C'est-à-dire que quand on invite quelqu'un, c'est vraiment parce qu'on a envie de faire quelque chose avec. Alors comme là, on a travaillé quand même, ça a duré des mois pour localiser les copies, pour voir si c'était possible de le faire. Et après d'approche auprès du personnage et compagnie, bon, ça pouvait pas se faire, donc on n'allait pas en quelques semaines chercher, demander à quelqu'un.
Et puis vous n'avez pas les inconvénients d'un jury avec des prix, avec un président qui se désiste à la dernière minute, voilà.
C'est... Oui, non, mais surtout que
nous, on n'est pas du tout dans la compétition, ça nous intéresse absolument pas. Quoi.
Ouais, mais pourquoi il n'y a pas un prix Extreme Cinéma?
Non, parce qu'il n'y a pas de prix à décerner.
Les
prix, on laisse ça aux autres, ça nous intéresse pas. On n'est pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est mieux, ça si ou quoi. On s'en fout, quoi. Il y a des films, on aime tous les films. Donc il y a pas et chaque film a son
Attends, même Bryce de Nice.
Encore que peut-être effectivement.
Enfin moi je trouve ça un petit peu
non, les frics
ce que je trouve paradoxal un petit peu quoi, c'est que bon bah justement venant de ce travail de cinémathèque, donc on se dit qu'on va voir plus de films qui ont, on va dire, un petit peu plus d'âge, c'est-à-dire vieux films en noir et blanc et des trucs comme ça. Alors que là, sur cette programmation, vous êtes plutôt centré, on va dire, sur bon films couleur, 70,
ouais.
80 jusqu'à nos jours, on va dire.
Ouais, ouais,
avec quelques petites raretés. Hein. Il y a L'Homme qui rit, hein, qui est un vieux film.
Qui a muet.
C'est le seul, hein, L'Homme qui rit, d'ailleurs, c'est tiré d'une nouvelle de Victor Hugo.
Oui.
Et il y a une version télévisée qui avait été faite dans,
oui,
dans les
fait,
années
ouais.
70, qui
ouais,
était
ouais.
absolument somptueuse.
Ouais, ouais, qui m'avait
très
terrifié.
Grave, ouais. Ouais, ouais, moi aussi ça m'a terrifié.
Qui m'avait terrifié.
Ouais, ouais, l'histoire est très gore. Quoi.
En fait, moi, la remarque, elle est assez judicieuse. En fait, c'est alors justement pour répondre à cette petite remarque, il y avait, c'est très simple en fait, la programmation, donc la Galerie des Glaces, à la base était constituée en fait du Charlatan d'Edmund Goulding, qui est un film, je crois, de 1945 avec Tyrone Power, qui se transforme petit à petit en geek dans une fête foraine. Il devait y avoir c'est L'amour parmi les monstres.
Il installe Linux sur un PC ou quoi?
Ouais, quasiment. Ouais.
Ouais, bon, d'accord.
Donc là, on avait un film de studio de 1945. Il devait y avoir L'amour parmi les monstres, qui est un espèce de drame totalement stupide avec les sœurs Hilton qui jouaient dans Fritz.
Les sœurs siamoises.
Et il devait y avoir The Penalty avec Lon Chaney. Or, ça s'est petit à petit effondré puisqu'il n'y a pas de copie en France. De The Penalty, on n'a pas pu en trouver une. L'amour parmi les monstres, la copie n'est plus montrable et il n'y a plus du tout de copie du Charlatan. Donc voilà,
c'est édite.
Donc voilà, c'est soit financé un nouveau tirage du négatif, soit
c'est financé, oui, soit c'est financé un nouveau tirage, soit par contre partir très loin donc aux États-Unis pour arriver à se procurer les films. Voilà, puisque là ils demandent trois films américains. Ça demande des sous-titrages électroniques qui sont
frais,
hors de prix.
C'est pas possible.
Ça aussi, s'il y a les festivals qui peuvent se le payer, tant mieux. Nous, on ne peut pas. Donc voilà. Et donc à la base, justement, ça a énormément changé puisque avec Franck, on avait décidé et pour prendre un contre-pied aussi, parce qu'on était aussi assimilé à cette culture cinéma bis, etc., etc. Donc on avait décidé avec Franck de prendre le contre-pied, de faire quasiment une programmation très très austère, une véritable programmation de cinémathèque, mais dans le sens un peu péjoratif du terme, quelque chose de très austère, de pas facile, qu'avec des titres qui certainement n'allaient pas attirer beaucoup de monde. Et donc voilà, le fait est qu'on n'en a pas eu l'occasion, mais peut-être qu'on le fera une prochaine année.
Ouais, ouais, enfin bon, parmi les quelques que j'ai déjà vus, hein, bon, outre Jodorowsky, il y a le film français là, qui est vraiment pas mal, hein, Demain les mômes.
Ah oui, c'est, ouais, 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 ouais.
C'est vraiment pas mal, hein, c'est complètement décalé, hein, c'est un peu space, on dirait maintenant.
Oui, ouais, tout à fait, ouais, 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 ouais.
Non, ils vont dire ouais, c'est space ce truc, quoi.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Mais c'est
ouais.
vraiment pas mal, hein. C'est moi, ça remonte à très loin. Hein. C'est un film qui date des années 70, fin des années 70.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Ça, c'est à conseiller. Sinon, bon, il y a les gros classiques comme Festin nu, Anthropophagus. Et tout ça, et les deux, l'auteur que tu as cité avant, hein, là, Elmer, hein, c'est le plus connu de lui, et le frère de sang aussi, quoi.
Oui, ouais.
Basket
ouais.
Case, quoi, qui vont être pas mal, hein, de toute façon. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi sur 1984.
Quoi, tu dis que c'est une merde ou quoi? Moi, j'ai jamais vu, moi. Hein.
Non, mais disons que ce qui est difficile avec 1984, quoi, c'est que bon, bah. Tout le monde avait déjà lu le bouquin à l'époque et tout. Et puis bon, même, je me rappelle que Bowie, 10 ans avant, il chantait aussi 1984. Et bon, l'attente, quoi, l'attente et la date échéance, quoi, tu vois, 1984, le film sort et tout. Puis tout le monde a été vachement déçu. On était là, mais merde, non, putain, c'est pas ça, quoi. Non, il y a un truc qui déconne, quoi, ça va pas. Et tout.
Ah ouais, ouais.
Il y a une déception, un truc comme ça, général et tout. J'ai revu quoi par la suite et bon c'est vrai que bon j'ai jamais trouvé ce truc qui devait faire un bon film, vraiment un film à apprécier. Non, Non, c'est un ovni, c'est vrai, c'est un petit truc qui s'est posé comme ça. Enfin, c'est quand même une grosse production.
Oui, c'est une grosse production.
Oui.
À noter que John Hurt, qui a incarné le héros de 1984, est repris justement. Il joue dans V for Vendetta. Je crois qu'il joue le rôle de l'enculé cette fois.
Oui, les rôles sont inversés.
Ah, amusant, tiens.
Pour finir, est-ce qu'il y a un film qui vous tient particulièrement à cœur dans la programmation que vous pourriez nous conseiller d'aller voir vraiment en courant, chacun?
Dont on n'a pas parlé ou dont on a parlé?
Ah, ben on peut en avoir parlé aussi.
On peut en avoir parlé aussi. Allez, vite fait.
Genre que vous avez défendu bec et ongle contre les...
Moi, j'irais les feux dans la plaine, pour aller dans un autre registre. Film de guerre japonais, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et c'est des... c'est des soldats japonais qui sont perdus dans la jungle et qui n'ont plus rien, qui sont affamés, leurs lignes sont coupées et qui vont finir par s'entre-dévorer, qui vont finir par devenir de véritables animaux. Et c'est un très très beau film avec un noir et blanc, un très beau noir et blanc. Les personnages sont noyés dans la jungle. C'est un film formellement très beau.
Tu peux pas savoir comme tu me tends la perche pour le sujet suivant puisque tu parles de cannibalisme et de cadre. Mais bon,
Et toi, Fred?
Moi, je vais en prendre deux, moi, parce que je vais prendre
fromage et dessert.
On va en prendre deux, donc Nothing de Nathalie, qui m'a sidéré. Et pour la bonne bouche, donc un film japonais qui je pense fera son petit effet, Naked Blood d'Hisayasu Sato.
Ça a l'air assez hard, hein.
Qui est strong. Oui. Comme on dit, c'est du strong stuff. Comme on dit, c'est moi j'ai failli sortir de la salle en fait la première fois que je l'ai vu. Donc les gens hurlaient. C'est un film qui est extrêmement lent en fait et qui amène quelques petits effets. À un moment donné, le film bascule en fait au bout de 40 minutes, bascule en fait dans le hardcore, mais qui fait vraiment mal. Ça, c'est un film qui fait très mal.
Donc, d'accord. Alors il est dans la programmation pour que les gens ressentent la même émotion que toi en fait.
Oui, c'est intéressant. On n'est pas au cinéma pour se faire du bien en fait.
Sac à vomi obligatoire.
Non, écoute, j'espère pas. Non, je pense pas. Certainement qu'il y a dû y avoir depuis. Le film date de 95. Il y a peut-être eu des choses un petit peu plus extrêmes. Je pense que graphiquement, c'est un des films les plus extrêmes qu'on ait passé. Par contre, ouais, ça, c'est
d'accord. Les gens sont prévenus.
Franck Lebet et Professeur Thibault, merci d'être venus. On rappelle les dates. On rappelle les dates peut-être.
21 au 30.
Puisque c'est la semaine prochaine, donc
oui,
ça commence
vendredi prochain. Le film ouverture Ichi the Killer.
D'accord. Voilà. Vous restez en plateau puisque en fait on a l'honneur de recevoir Guillaume qui lance un nouveau gratuit sur Toulouse qui est au format carré un peu plus grand qu'un format CD, ça s'appelle 3 petits pois et ça tombe bien. Guillaume, bonjour. Bonjour, approche-toi du micro sinon ça va pas du tout le faire. Voilà.
Ouais, comme ça c'est bon.
Voilà, hein. J'espère que tu as pris goût avec ces histoires de cannibalisme et tout ça puisque tu es là en fait pour un magazine qui parle de restaurants.
Voilà, la gastronomie dans son ensemble.
Ça va faire bizarre, ça fait un peu bizarre, mais après tout, ça fait une bonne sortie là. On se fait un resto et puis ensuite on se fait un film bien gore. Guillaume, raconte-nous un peu d'où est partie en fait l'idée autour de 3 petits pois.
C'est parti il y a pas si longtemps que ça fait 3 mois. Hein. Mmh. L'idée est partie de deux personnes, moi-même et puis Cécile Lecovure, ma collaboratrice. Qui est chargé de la communication du magazine. Voilà. Donc on est parti sur la thématique de la gastronomie. On a une approche assez qui est assez axée sur le graphisme au travers de ce qu'on peut retrouver dans nos assiettes. Donc on va chercher les couleurs, les saveurs chez les professionnels.
C'est vraiment sur le plaisir des sens, quoi.
Ouais. À fond, ouais. Et puis on va essayer de répercuter tout ça à la maison. Ça va vous ramener des idées de recettes, de préparations, comment sélectionner ses produits sur le marché. Ouais. On va essayer de vous ouvrir à cet art.
D'accord. Quelle est la périodicité prévue du magazine?
Alors, c'est un bitrimestriel. Voilà, c'est un bitrimestriel.
C'est un bitrimestriel, il est disponible gratuitement, mais où est-il disponible exactement?
Alors, il y a une sélection qui est faite au point de vue de la distribution. Vous retrouvez ça dans la plupart des restaurants sur Toulouse.
D'accord.
Les hôtels, les offices du tourisme, mairie, lieux culturels, voilà, tout simplement. D'accord. Aéroport aussi.
Quel est le ton prévu? Parce que c'est vrai qu'en cuisine, on là, a des. Dites... Il y a différents. Quel est le ton prévu? Puisque en cuisine, en fait, on peut le prendre soit de manière Goemio, soit on peut le prendre de manière Guide du Routard.
C'est manière Petit Renault ou Jean-Pierre Coff? Pardon.
À ce niveau-là.
Et quand même, c'est bien choisi. Hein.
Le ton, je sais pas. Ce qu'on recherche déjà avant tout, c'est.
Mais le ton, c'est bon.
Ouais.
Bravo.
Bon, Guillaume.
Si vous aimez les sushis, le ton cru, c'est magnifique.
D'accord, mais ça, c'est pour le concert ce soir. Il reste toujours une place à gagner. Mais donc, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que finalement, vous sélectionnez un restaurant en fonction du cadre ou en fonction du prix, en se disant certains?
La première chose qu'on regarde, enfin moi, personnellement, la première chose que je regarde, c'est l'hygiène. Je vais aux toilettes. Voilà. Après, une fois que je suis séduit par ça, je vais aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe dans la cuisine.
Ah, d'accord. Et puis, les toilettes, voilà, en profondeur dans les cuisines.
Voilà, voilà. Et après, on finit dans l'assiette. Non, mais c'est la base, c'est la base.
C'est la base. C'est se dire si à partir du moment où c'est clean en coulisses.
C'est pas parce que c'est beau vu de l'extérieur que on va répercuter. L'image du restaurant sur le magazine.
Il y a eu des mauvaises surprises.
Ouais. Je pense qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde.
Il y a
beaucoup de restaurants qui jouent sur le concept, sur le design, le machin, le truc.
Et dans
l'assiette, bah, y a rien. Par contre, le prix, il est vachement présent. Hein. On le ressent. Hein.
du sport qui est mandolin à côté qui dit oui.
La cuisine, c'est un sport.
D'accord. Eh ben, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Donc, ça s'appelle Trois Petits Pois.
Ouais.
Le numéro est sorti donc depuis combien de temps?
Bah, début avril, là.
D'accord. Du sport, t'avais peut-être un truc à rajouter, non? Je sais pas. Non. Non, tu es sûr?
Bon, moi, j'ai une question, en fait.
Vas-y.
Et est-ce que les gens savent, en fait, quand tu ou vous allez dans un resto, est-ce qu'ils savent que tu fais ce magazine? Et est-ce que ça change la...
Bah, ce que je fais, en fait, je vais manger par surprise. Je dis rien à personne. Le principe, en fait, de...
Le principe du critique culinaire. Quoi.
Voilà, ouais, à fond. Ouais. Par contre, la deuxième fois, je reviens, mais je leur dis pas que je suis venu manger. Je leur dis, je vais venir manger chez vous. Donc, on va voir s'ils sont honnêtes, tout simplement. Ouais. S'ils assument leur bêtise, hein, ou s'ils assument... Enfin, tu vois un peu la démarche.
Ouais.
Moi, je pense qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière à ce niveau-là. Il y a plein de choses à faire, à développer. Et puis, j'invite à tout le monde à venir nous rejoindre sur ce magazine et puis sur l'émission de radio qu'on va animer tous les samedis avec Zab.
Oui, puisqu'ils seront présents donc en mai et en juin. De temps en temps, ils feront une petite chronique en plus. Parce que j'ai envie de me délaisser un peu de la BD.
Ouais. On va faire un test. Hein.
Ouais. On va voir ce que ça donne. Et puis, à la rentrée, j'espère que ça ira beaucoup mieux.
Ouais.
Et puis, Eh ben d'accord, en tout cas, on remercie beaucoup les invités. Du sport semble un peu impatient, je te rassure. Hein. Il n'y a que 58 minutes 30.
Tu nous fais un spécial série culinaire ou non?
Ouais, mais j'ai pas noté les horaires. Je sais que cette semaine, sur Cuisine Télé, me semble-t-il, il y a Jamie Oliver, le chef anglais vachement connu.
Le fils, hein. Le fils d'eux.
Non, Jamie Oliver. C'est l'anglais, le rouquin, là, tu sais, quoi,
qui fait la cuisine rock'n'roll.
Voilà, c'est ça. Et c'est une nouvelle série, hein, parce qu'il a fait la totale de toute façon ce qui concerne l'émission culinaire à la télé. Bon, généralement, c'est pas mal, c'est bien foutu. T'as mis chez lui, alors il y a une espèce de truc vachement pratique pour faire la bouffe tranquille, et puis il te fait des plats zarbi où il arrive à mélanger des ingrédients qui sont réputés. Immangeable, je veux dire, mettre de la Guinness dans la bouffe, quoi. Il n'y a que lui pour faire ça. Bon, il le fait, il fait plein d'autres trucs. Il assimile plein de cultures. Hein. C'est vrai qu'en Angleterre, en fait, la cuisine, c'est plein de cultures qui sont mélangées et tout au niveau de la bouffe. Et c'est, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est comme nous, on a le couscous, on a la paella, c'est vachement français, on est vachement content. Et en fait, il a fait également le TED, il a fait également le trip à la télé, bien sûr, à la télé anglaise, hein, ça n'a pas été rediffusé celle-là. Mais le coup de l'école où il va former des mecs et tout, et puis à la fin il y a des mecs qui restent, qui va vraiment embaucher dans son resto qu'il a créé, Tagada, ça on l'a déjà vu, ça a été décliné en plusieurs modules. Et là c'est un nouveau concept pas mal intéressant, c'est que Jamie Oliver se rend dans les écoles anglaises et va montrer aux enfants et va décortiquer aux enfants ce qu'ils mangent alors dans l'assiette à la cantine, mais également ce qu'ils mangent à la maison. Alors
faut savoir qu'il y a eu un gros scandale en Angleterre récemment là-dessus. Hein.
Style, il te montre que dans les nuggets de poulet qui sont tout faits, tout préparés et tout, il te sépare les différents éléments et puis tu te rends compte que c'est vraiment de la merde, des trucs pas possibles et tout, avec les additifs, les poudres, tout ce qu'ils rajoutent dans la cuisine industrielle. Quoi. Et puis il montre les différents éléments aux gamins pour leur dire voilà, c'est ça que vous mangez. Les gars, vous êtes contents, quoi. Voilà, ça c'est Jamie Oliver, donc Tipeee Cuisine. Bon, ça passe en ce moment, mais j'ai pas noté les horaires. Je suis désolé, j'avais pas prévu le trip comme ça, quoi. Par contre, dans un registre complètement différent, un petit peu de manga, ça t'intéresse ?
Ouais.
Attends, parce que ça doit être du lourd quand même. C'est Les Ailes Grises, hein, de
Yoshitoshi
Abe. Ah oui, pas, s'il te plaît.
Ah non. Là, tu me lances pour au moins une heure et demie.
Le mec qui a fait Lane, entre autres.
Et qui a fait Lane, qui a fait Nier Under Seven, voilà. Qui est malheureusement inconnu en France, mais Lane qui a été très mal traduit, mais c'est en général.
Oui, attends, il est connu quand même. Hein.
Voilà, il a juste fait le design sur ces séries, c'est la première fois qu'il fait un scénario sur cette série et qui a été produit
s'il te plaît
Toshiyoshi Abe, voilà. Et qui est produit d'ailleurs par Fuji TV, qui est plutôt d'ailleurs une chaîne dans le style TF1, dans le genre Gravos. Et... Non, bon, allez, j'arrête parce que sinon je.
Ouais. Bon, la série commence à être diffusée sur W9 à partir de mardi après-midi, tous les jours de la semaine, à partir de 16h45. C'est une module qui font des animés qui font 25 minutes l'épisode. Donc à partir de mardi sur W9. Sinon. Souvenez-vous, il y a 20 ans, ça a pété, c'était grave, c'était excellent, c'était Tchernobyl, ça fait 20 ans les gars, ouais. Et toute la semaine prochaine, pas mal d'émissions qui vont être déclinées sur ce thème, hein. Comme c'est un sujet sérieux, ça va être des émissions sérieuses bien sûr. Alors ça commence dans le désordre carrément, France 5 demain soir à 21h45, Le Soleil et la Mort. Vendredi prochain sur France 3, on a la bataille de Tchernobyl de Thomas Johnson, où là il a carrément allé interviewer tous les mecs, les mecs, c'est-à-dire Poutine, les gros, pour savoir à l'époque et tout, comment ça se passait, interviewer le mec qui a survolé Tchernobyl, qui allait prendre des photos, ça venait de péter, ça, le mec il prend un hélico et hop, putain, on veut faire des photos d'enfer et tout, les photos qu'on a vues partout dans la presse et tout, à l'époque.
C'est lui qui avec les toutes les radiations, les rayons gamma qui ont bien traversé la péloche.
Il est toujours vivant. Donc ça c'est vendredi. Ça c'est il est toujours vivant. Ça c'est vendredi prochain, donc 23h25 sur France 3. Demain soir, c'est peut-être un peu plus dispensable parce que c'est sur M6, c'est présenté par Laurent Delahousse, vous voyez le genre. Donc ouais. Spécial Tchernobyl, ça s'appelle tout simplement. Bon bah ok, d'accord. Pour patienter avant 100% foot, hein, c'est bien dimanche soir de toute façon. Et plus sérieux là, très sérieux de toute façon, mais enfin néanmoins intéressant, c'est sur Arte mardi prochain la soirée, donc la théma. À partir de 20h40, 20 ans après les retombées de Tchernobyl, à 20h45 c'est l'Europe et Tchernobyl, 21h45 le deuxième documentaire qui s'appelle Le Piège Atomique, et à 22h05 donc qui concerne en fait pas uniquement Tchernobyl mais toutes les centrales nucléaires qui ont été installées en Russie et autour de la Russie dans les pays satellites à l'époque où ça faisait qu'un, et à 22h30, le débat animé comme d'habitude par Hervé Claude. Du côté des séries,
il y a... Juste une question, c'est marrant qu'on ne parle pas quand même du rôle prépondérant qu'a eu Charles Pasqua, puisqu'il a dit le nuage de Tchernobyl ne passera pas. Il y a eu tous les... Il y a eu à l'époque tous les spécialistes de EDF qui disaient mais non, le nuage nucléaire ne passera pas en France, pas de soucis et tout.
Ouais, mais moi à l'époque, j'habitais dans la région française qui était la plus proche géographiquement de Tchernobyl. Et alors quand ils nous ont dit, ouais, ils se sont arrêtés à la frontière. Et nous, on voyait bien la frontière, tu vois. Bon, on n'a pas vu les rayons, mais enfin bon,
c'est la Corse, c'est la Corse qui a subi le plus, ceci dit.
Alors, donc Tchernobyl, voilà, tout ça, c'est la semaine prochaine. Du côté des séries à présent. pas grand chose de nouveau, sinon la saison 5 de Smallville qui démarque ce soir sur M6 à partir de 20h50 avec Tom Welling, Superman, avec Christine Kroc, Lana Lang, et avec un petit nouveau qui va être là pour les 7 premiers épisodes. C'est un extraterrestre comme Superman, et lui il est vachement méchant, il va faire chier Superman pendant les 7 premiers épisodes. On l'a déjà vu parce qu'il avait un rôle tellement évident dans une autre série qui a cartonné du feu de Dieu pendant cette saison qu'ils ont voulu à un moment, ils ont fait une série dérivée mais sur un autre personnage. Ils voulaient faire une série dérivée sur ce personnage, ça s'est pas fait. Maintenant il commence à vieillir donc ça va être un petit peu moins évident. C'est Spike dans Buffy, James Marsters donc, ouais. Qui va être qui va faire chier Superman donc dans Smallville, c'est ce soir à partir de 20h50 sur M6, deux épisodes. Le premier Simple Mortel, c'est aussi titre. Alors les deux titres de Smallville, c'est deux titres de films qu'on connaît. Simple Mortel, c'est le film de Bouchitet,
Pierre Jolivet.
Voilà, Frangin Jolivet. Et l'autre, Haute Trahison. Bon, ça c'est bon, laisse tomber. Il peut y en avoir plusieurs qui s'appellent comme ça. Alors, demain soir, est-ce que ça va être l'arnaque? La deuxième arnaque après celle de Soderbergh, qui avait pompé, mais alors pompé du début, mais juste à la fin, mais l'histoire de Trafic, la mini-série dont je vous ai parlé, qui repassait dernièrement à la télé, parce que là, nouvelle mini-série produite par Monsieur Steven, qui s'appelle Trafic. 3 fois 1h30, c'est filmé par Stephen Hopkins, le mec qui cartonne à fond les manettes avec 24. Voilà, il y a Elias Coteas dans un des rôles principaux, Marie McCormack, Justin Chatwin et d'autres. Ça peut être intéressant, on va voir ce que ça donne. De toute façon, l'histoire a été transposée, parce que l'histoire originale et tout, c'est en Angleterre, un claque. Ensuite, la deuxième histoire de film de Soderbergh, il a transposé ça ouest des États-Unis, Mexique, truc. Mmh. Et là, ça va être plutôt dans le nord-ouest des États-Unis, Seattle et tout ça, avec quand même le truc original, c'est-à-dire l'Afghanistan, alors qu'au départ c'est au Pakistan que ça se passe. Ok, ouais, vous avez compris.
Ouais, sauf que tu dis que Soderbergh il avait pompé la série, mais il s'en était jamais caché. C'était entré dans les bonus du DVD, etc. Donc c'était quand même le postulat de départ.
Ouais, c'était le postulat de départ, mais enfin bon, il l'a pas trop développé. Et c'est vrai que quand on parle du film Trafic qui a eu plein d'Oscars, de machins, de trucs de bidule et tout, je veux dire, c'est pas sorti non plus, quoi. Disons, on n'a pas mis le point là-dessus. Style, ouais, j'ai repris un film, j'ai repris une série, tagada, que dalle, ouais. voilà. Allez.
Cannibalisme, ouais, drogué, fout, quoi. C'est quoi le troisième thème des jeux d'extrême cinéma?
Le goût des autres, narco-ciné.
Le futur.
Ah oui,
et comme on est dans l'extrême cinéma à partir de la semaine prochaine, vendredi prochain, je vais vous faire la semaine du cinéma sur la semaine de télé sur Cinextrême, les gars. Alors là quand même, je me suis dit que j'allais un petit peu les régaler nos invités, mais enfin des fois tu te demandes ce que les mecs ils ont craint. Ça commence sérieux quand même demain soir à 21h. Alors c'est tous les soirs à 21h sur Cinextrême. Azumi, un Kitamura de 2003.
Tiens, un japonais.
Qui est bien, bien rough quand même, moins 16, à la télé. Lundi. J'en rigole d'avance. À 21h, Le Grand Pardon 2. Qui vaut le coup juste parce qu'il y a Christopher Walken dedans et il est bien dedans, quoi. Il n'y a pas de problème.
Qui est quand même un incroyable nanar.
Ouais. Il y a Christopher Walken qui se fait exploser la tête par Roger Alain, quoi. Mais c'est à voir quand même. Mardi, c'est pour les hip-hoppers qui n'ont toujours pas vu. C'est Gridlocked, le film de Vondi Cortisol avec Tim Roth et Tupac. La nana, c'est Tandy Newton. Mercredi, un film assez récent de Rob Schmitt, Détour mortel avec Elisa Dushku et Desmond Harrington. Jeudi, celui-là, il est pas mal, mais enfin, c'est pas tellement extrême, on va dire. C'est un vieux Stephen Frears, un de ses premiers d'ailleurs, qui s'appelle The Heat avec Terrence Stamp, John Hurt, Tim Roth, Laura Del Sol. C'est pas mal. Un des premiers rôles secondaires de Tim Roth, d'ailleurs, ce film. Et il est vraiment bien, quoi. Un jeune gangster con, borné, enfin bon, stupide, tout ce que tu veux. Et il le joue très bien, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et alors, on termine en beauté vendredi prochain avec un film de... Je sais même pas si... Je me demande si tu connais ce réalisateur, Louis Grospierre.
Ah, le nom, oui, bien sûr. Et
Louis
le film,
Grospierre,
c'est...
Hein, du Mou dans la gâchette, un film de 67.
Ah oui, oui, oui,
avec,
comédie.
Avec Bernard Blier, Jean Lefrèvre, Francis Blanche, histoire de deux provinciaux qui montent à la capitale en se faisant passer pour des gangsters, des tueurs, quoi, tu vois.
Ça, c'est trop extrême, ce que tu nous dis. Hein.
C'est vraiment, c'est du top extrême et tout. Alors, j'ai aussi mon nouveau quiz. Il est là. Alors, au départ, je voulais vous faire un spécial science-fiction, les séries de science-fiction. Je me suis dit, non, ils vont décrocher et tout, c'est pas possible et tout. Je vous prépare un Star Trek pour la prochaine fois et pour mettre en bouche, là, allez.
Je tiens à signaler, si vous voulez y participer, c'est très simple, vous coupez votre radio de suite ou vous avancez votre podcast de 10 minutes puisqu'on le mettra sur le site internet
voilà,
de l'émission.
Voilà. Allez, Captain Kirk, le prénom de Captain Kirk. Alors,
James T.
Ouais, mais que veut dire le T?
Ah merde.
Attention, Théodore, attention. Si t'avais joué au Flipper Star Trek, tu le saurais. C'est marqué. Les lumières, toutes les lettres s'allument l'une après l'autre. Tiberius, c'est T. Ouais, Tiberius, Captain James Tiberius Kirk. Ensuite, un plus facile là de la série Marié, deux enfants. Monsieur Bundy, il s'appelle comment? Oh, elle est facile, quoi.
Al,
voilà, bien joué. Ah là, celle-là, elle est moins évidente. Miss Marple, de son petit nom. Miss Marple.
Hélène?
No.
C'est Martina.
No, no, dear.
I'm sorry.
No, dear. Jane Marple. Dont le personnage est interprété dans la série télé par Joan Hickson. Ensuite, là, celle-là, bon, c'est un petit peu pour les spécialistes quand même, le shérif Truman dans Twin Peaks, interprété par Michael Onkin. Alors, bon, c'est parce qu'il y a un clin d'œil, si tu veux, quoi, le
Harry.
Exactement. Harry S. Truman. Ensuite, un gros classique, l'inspecteur Logan dans Law and Order, New York District, interprété par Chris Knott. Allez. Je vous la sors au moins tous les 15 jours.
Oui, bon.
Bah, Mike. Et celle-là est très difficile quand même, hein, parce que on ne prononce jamais son prénom dans la série. Il faut consulter les génériques et tout ça, quoi, pour le savoir. C'est le prénom du lieutenant Castillo, Edward James Olmos, dans Miami Vice. Alors là, accrochez-vous, les gars. Allez, si, je crois qu'il le, à un moment, un épisode, il le dit. Parce
souvenez-vous!
Que
c'est
avec l'histoire du trip de sa famille. C'est Martine Castillo. Et alors là, c'est les nanas qui vont trouver, mais comme il n'y en a pas, vous ne trouverez pas les prénoms de Cagney et de Lassé.
Cagney
et Lassé.
C'est qui?
Ah, il décrit.
Ça y est, avec deux femmes policières.
Deux femmes policières, mais oui.
Prénom du docteur Ross, mais lui.
Interprété par Sharon Gless, c'était Cagney. Chris Cagney et Tyne Daly, c'était Marybeth Lacey. Ensuite, pour les couillus, le prénom de Pepe Boyington, son vrai prénom, c'est
Greg.
Quoi?
Greg Pepe Boyington.
Bien joué.
Attention, là, il nous bat.
Et on termine encore par un Star Trek, et là, c'est du facile, c'est du à l'aise quand même, hein, le prénom du capitaine Picard.
Jean-Luc.
Bien sûr, facile.
Là, nos invités nous ont foutu la race, là.
Ah ouais, mais quand même. Bon, bah, la semaine prochaine, je vous fais un spécial Star Trek, les gars.
D'accord, voilà. Va falloir réviser ça, et sérieusement. C'était le supplément week-end du samedi 15 avril. Et joyeuse Pâques d'ailleurs à tous. Cette semaine, je me suis promis de ne pas dire à la semaine prochaine au revoir tout le monde en japonais. Donc, on peut dire qu'il y avait du monde sur le plateau puisqu'on était 8. Il y avait l'équipe de ce nouveau magazine qui s'appelle Les Trois Petits Pois, magazine culinaire sur Toulouse pour pouvoir sortir. Il y avait aussi Franck Lebé et Professeur Thibault pour le
Festival Extrême Cinéma qui commence vendredi prochain.
Voilà, jusqu'au 30 avril. À noter que le 30 avril aussi, c'est la fin, tout juste à côté au cinéma ABC, la fin de l'exposition
Nouvelle Manga,
voilà. Thomas, peux-tu nous faire un résumé pour tous ceux qui ont manqué depuis le début l'émission?
Écoute, aujourd'hui j'avais la bouche pleine d'olives et j'étais en train de prendre des photos et gérer l'interview, donc je n'ai absolument rien noté du tout.
Je dois dire que moi j'étais en train de coacher une future émission et en train de faire échanger les disques et de faire plein de choses à la fois.
Donc on peut quand même
et
noter.
On n'a pas fait gagner les places pour.
Non,
il n'y a personne. Mais je vous jure, c'est bien. Hein.
0561 680 680 pour gagner la place de pour Sexy Sushi, le concert de ce soir
qui a lieu chez Pierre à partir de 21h, sinon c'est 5€ l'entrée.
Ah. Et oui, vous pouvez économiser 5€, vous pouvez toujours appeler. À noter, ben voilà,
spécial 0561 680 680 le numéro de tel.
Et il nous reste à vous dire la semaine prochaine, puisqu'on reçoit François Penaud pour une émission spéciale autour d'Alan Moore, pour saluer la sortie de V for Vendetta. On parlera de
François Penaud, donc qui est l'un des traducteurs de référence autour d'Alan Moore et qui est aussi le co-rédacteur en chef de Actua BD, magazine d'information très spécialisé et très pointu.
Voilà,
et
bon collègue à nous aussi.
Voilà,
on salue d'ailleurs s'il nous écoute.
On salue, et d'ailleurs on connaît qui est le nouveau directeur du salon du festival de la bande dessinée d'Angoulême et aussi quels sont les derniers avancements de depuis. Mais c'est un peu tard et du sport commence à s'impatienter en bouffant une olive et en me disant bon alors tu dégages hein, quand même, il y a le championnat.
Les pros, ciao. Ciao ciao.
Éphémère 13h17. Je suis passé du côté obscur de la force pour vous parler un petit peu de sport et ça commence avec de la baston à fond les manettes. En Italie, de la baston, les joueurs de l'Inter dans la nuit de samedi à dimanche dernier, à leur retour du match, les joueurs ont été agressés et insultés par une cinquantaine d'ultras qui les attendaient à l'aéroport Malpensa de Milano. Et malgré l'intervention de la police, Cristiano Zanetti a été légèrement touché à la nuque, victime d'un coup de poing ou d'un jet d'objet. En Espagne, c'est Samuel Eto'o qui a été victime de cris racistes encore et le Racing Santander a été condamné mais à une amende d'un montant non communiqué. Alors, généralement en Espagne, la première fois tu prends 6 000 € dans la gueule, la deuxième fois c'est 18 000 € dans la gueule. Lors de la 34e journée du championnat de France de foot, ils en ont pris plein la gueule aussi. Le match Metz 3, 8 interpellations. Poubelles incendiées, abribus détruits, bouteilles de bière cassées, des barrières jetées. C'est une journée de Ligue 1 en France. 8 supporters ont été interpellés pour des jets de pierres et des canettes sur les forces de l'ordre, mais aussi des dégradations de véhicules. Accusés de violence à l'encontre d'agents de la force publique, eh bien, il y en a 4 qui sont mineurs, qui vont être déférés devant un juge pour enfants. Paris Saint-Germain, comme d'habitude, ils se cartonnent entre eux.